On se disait, ça faisait quand même longtemps que Trump n'avait pas dit de conneries. Eh bien, hier soir, le président américain a menacé de bombarder un pays allié. Pas l'Iran, pas la Russie, pas la Corée du Nord. Non, Oman, juste Oman. C'est-à-dire le seul endroit sur cette planète où les Américains et les Iraniens acceptent encore de s'asseoir dans la même pièce pour essayer de rouvrir un jour le détroit d'Ormuz. Et le motif officiel, je vous le donne dans le texte, ils se sont pas très bien comportés. Pas très bien comportés, même à l'école primaire, on n'aurait pas osé dire ça pour ne pas blesser les enfants. C'est juste consternant. J'étais justement en train de me dire que ça faisait vraiment longtemps qu'il n'avait plus dit n'importe quoi. Visiblement, c'est reparti pour un tour. Mais pendant que tout le monde va commenter cette phrase, pendant 3 jours, il s'est passé hier soir quelque chose de beaucoup plus grave ou plus important. Un truc dont personne ne parle, ou plutôt les gens parlent de plus en plus. Un truc qui va décider de la prochaine crise financière. Bienvenue dans ce Morning Bull Live du mardi 18 août 2026. Je suis toujours Thomas Veillet et ce matin au programme, Trump qui veut bombarder ses alliés, un marché obligataire mondial qui craque sous nos yeux dans l'indifférent général, la dette américaine qui atteint des niveaux qui ne veulent plus rien dire, Nvidia qui invente un business model qu'aucune banque n'aurait osé écrire, et l'inflation qui pourrait revenir par les matières premières.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Donc le 17 juin, Washington et Téhéran avaient signé un bout de papier qu'ils appelaient un MOU. À l'époque, c'était presque le Graal. Il y avait des émissions spéciales toutes les 5 minutes avec des experts partout. Un MOU, c'est un protocole d'accord, 60 jours pour discuter avec l'idée de rouvrir le détroit d'Ormuz et accoucher d'un vrai traité de paix. Sauf que ce truc, c'était de la dope parce que dès le premier jour quasiment, puisque quelques semaines plus tard, les bombardements ont repris. Mais attention, et c'est ça qui est fabuleux, bombardement ou pas bombardement, le MOU restait officiellement en vigueur. On l'avait juste un tout petit peu oublié dans un tiroir. Mais hier soir, les 60 jours sont arrivés à expiration. Alors, question, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 60 jours de négociation? Ben, nada, rien. Pas une négociation, pas un accord, pas un deal, même pas une invitation à Thanksgiving pour pardonner la dinde à la Maison Blanche. Le ministre iranien des Affaires étrangères a eu cette phrase que je trouve presque magnifique. Il a dit « Nous n'avons pas commencé les négociations, aucune négociation n'a commencé et les États-Unis ont violé l'accord dès le premier jour. » Donc, l'histoire des 60 jours n'a aucune pertinence. Traduction pour les gens normaux comme vous et moi, on a signé un papier pour faire baisser le pétrole et ça a marché 2 semaines. Ensuite, on est revenu exactement à la case départ. Restait donc plus qu'à voir si les Américains voulaient, eux, prolonger le MOU. La réponse a été simple. Non ! Trump refuse toute prolongation, il demande à l'Iran de, je cite, « hisser le drapeau blanc de la capitulation » et il ajoute dans une série de punchlines à la con que les Iraniens sont de bons joueurs de poker mais que là, ils sont en train de mourir. Il aurait pu s'arrêter là. Franchement, mou ou pas mou, sur le terrain, ça change rien. Mais non, il a promis de bombarder Oman si ça continue comme ça. Le pays qui organise les réunions se fait tabasser parce qu'il organise les réunions. Et vous savez ce qui me sidère? Depuis 15 ans, tout le monde m'explique que Kim Jong-un de stress est complètement givré là-bas, en Corée du Nord, avec ses fusées et sa coupe de cheveux. D'accord? Mais à un moment, il va peut-être falloir commencer à se poser des questions sur l'état mental du président américain. Résultat du côté marché, le Brent a pris 2,7% pour finir à 90,87. Ce matin, on est déjà à 91,10. Et là, il y a un truc qui me fascine. Vous savez ce que tout le monde dit par rapport au pétrole? Oui, mais bon, en avril, on était à 113$, donc à 91, on est encore loin des sommets, donc loin des problèmes. Voilà, notre capacité à absorber les mauvaises nouvelles est toujours et tout simplement flippante. On a mis la barre tellement haut en avril que 91$ aujourd'hui, ça passe pour une bonne nouvelle. C'est comme si vous étiez cassé les deux jambes l'été dernier et que ce matin, avec un ménisque en confiture, vous trouvez que ça va plutôt pas mal. Et il y a là-dedans un détail vicieux que personne ne regarde. Vous savez pourquoi le pétrole n'est pas à 120$ avec Hormuz fermé et Trump qui menace de bombarder ses alliés? Eh ben, la Chine, Pékin, a réduit massivement ses importations de brut de 4 millions de barils par jour. Elle est passée de 9 millions à 5. Et c'est peut-être rien d'autre que ça qui tient les prix à un niveau plus ou moins correct. Enfin, c'est l'excuse qu'on utilise. Donc la bonne nouvelle du moment, c'est que la Chine s'est mise au régime sec. Sauf que le jour où Pékin rouvrira le robinet, et il va forcément le faire un jour, ben ces 4 millions de barils, voire plus, vont revenir d'un coup dans un marché qui reste pour l'instant vachement tendu. Typiquement, c'est le genre de truc qu'on ne voit jamais venir, mais qu'on est super brillant, super fort pour expliquer ça 3 jours après. Mais bon, ne soyons pas négatifs, visons l'optimisme éternel et on va dire que c'est un détail et que tout va bien comme d'habitude. Bon, maintenant, le vrai sujet de la journée. Le rendement du 30 ans américain a atteint les 5,31 hier, son plus haut niveau depuis le 12 juin 2007. 2007, réfléchissez 3 secondes. La dernière fois qu'on a vu ces niveaux-là, l'iPhone venait de sortir. Lehman Brothers était encore une banque très respectable. Et la banque où je travaillais expliquait à tout le monde que l'immobilier américain était un actif solide et globalement peu risqué. Mais le plus important, c'est pas le chiffre, c'est la forme de la courbe. Oui, parce que le 2 ans, lui, il bouge pas. Hein, il est à 4,18. L'écart entre les deux extrémités, donc le 2 ans et le 30 ans, est monté à 113 points de base et c'est le plus large depuis avril. Ce qui veut dire en français que le marché n'a pas peur de la banque centrale à court terme, mais il a peur de ce qu'il peut y avoir plus tard, dans 30 ans peut-être, ou avant. La dette, la durée, la duration et l'inflation qui est en train de rentrer via le pétrole. Alors oui, je sais que je vous bassine avec ça depuis 2 mois, mais si je reviens dessus ce matin, c'est que depuis hier, on trouve soudainement beaucoup plus d'articles et d'interrogations sur le sujet dans les médias. Reste donc juste à voir à partir de quel rendement on va commencer à tiquer sur les actions, sur l'IA et sur tout ce qui est très cher. Et puis j'ai un autre chiffre pour vous. Un chiffre que je trouve absolument fabuleux ce matin, c'est la corrélation sur 10 jours entre le prix du pétrole américain et le rendement du 30 ans américain aussi. Là ce matin, on est à 0,85. Une corrélation de 1, ça voudrait dire que les deux bougent exactement ensemble au même moment. Le 23 juillet, cette même corrélation, donc le 23 juillet, c'est à 3 semaines, était à 0. Aucune relation. Donc en 3 semaines, le marché obligataire américain, le plus gros marché financier de la planète, le truc censé être le plus sûr du monde, c'est devenu un dérivé du prix du pétrole. Vous avez un bateau qui prend feu quelque part entre Bandar Abbas et Mascate, et c'est le crédit hypothécaire d'un type au fin fond du Texas qui devient plus cher le lendemain matin. Et derrière, il faut bien que quelqu'un achète tout ce papier. La semaine dernière, le Trésor a placé 25 milliards de 30 ans à 5,2160, le taux d'adjudication le plus élevé depuis 2001. Et pendant ce temps-là, la dette fédérale américaine vient de passer les 39 925 milliards de dollars. On franchit les 40 millions d'ici la fin du mois et elle a doublé en 10 ans. Et c'est pas ça le sujet. Le sujet, maintenant, ça commence à devenir les intérêts. Ce que le gouvernement américain doit payer chaque année juste pour avoir le droit de continuer à devoir de l'argent. Ce chiffre vient d'atteindre un record, 1400 milliards de dollars par année, il a quasiment triplé depuis 2020. Et ça ne s'arrête pas là. Si les taux restent là où ils sont, on passera à 1700 milliards dès novembre 2028. Et à ce moment-là, pour la première fois de l'histoire, les intérêts de la dette deviendront le premier poste de dépense du gouvernement fédéral américain devant les retraites, devant le social. Le premier poste budgétaire du pays le plus puissant du monde, ce sera payer les gens à qui on doit de l'argent. Je sais bien que tout le monde s'en fout, hein. Ça n'empêche personne d'acheter du Nvidia ce matin. Mais quand même. Et alors surtout, on voit pas comment ils vont inverser la tendance. Il n'y a que 2 sorties, hein. Soit on ramène les taux à 0, soit on fait péter l'inflation. Alors attention, faudrait pas croire que ces rendements qui prennent l'ascenseur, c'est un petit problème que local dans la région de Washington. Parce que ce matin, le 10 ans japonais est à 2,944, son plus haut niveau depuis, tenez-vous bien, septembre 1996. Le Japon, c'est le pays qui a inventé les taux à zéro, le laboratoire mondial de l'argent gratuit. Et il est en train de sortir de 30 ans d'anesthésie générale. Le marché price désormais à 80% une hausse des taux de la BOJ, la Banque du Japon, dans un mois. Au fond, moi, je me demande à partir de quel moment on va commencer à paniquer sur le 10 ans japonais. Ça va faire un peu comme les dates de péremption. Le 31 octobre à 23h59, tu peux manger ta boîte de thon avec de la mayonnaise et le 1er novembre à minuit 1, tu chopes le scorbut, tu perds tes dents et tu passes les 8 prochains jours enfermés dans les toilettes parce que toutes les maladies du monde sont passées par la porte de derrière de la boîte de thon en question. Eh ben pour le 10 ans japonais, c'est pareil. À 2,94, tout va bien. À 2,97, tout va bien, ça rigole et on se nourrit exclusivement de caviar. À 2,99, on se sent en sécurité comme jamais et on rajoute du champagne sur le caviar. À 3%, on nous dit que c'est un test technique et à 3,01, le Japon s'effondre et tout le monde se souvient du concept du carry trade. Et à 4%, on se demande pourquoi on l'a pas vu plus tôt. Et puis alors en Europe, même musique, hein. Le 10 ans français à 4,07, le plus haut depuis 2009, le Bund allemand à 3,23, plus haut depuis 2011, il n'y a pas un pays du G7 qui échappe au truc. Hein. Le monde entier a passé 15 ans à emprunter comme si l'argent ne coûtait rien, et il découvre en même temps qu'il y avait une petite ligne écrite en tout petit en bas du contrat qui disait que les taux pouvaient aussi monter. Et pendant que Macron fait du jet ski, personne ne se demande comment la France et l'Allemagne vont refinancer leurs trous à la rentrée. Parce que si les taux montent encore d'ici septembre, il va falloir serrer les fesses très très fort pour ne pas perdre le jet ski. Petit rappel pour ceux qui reviennent de 3 semaines de trek au travers des Alpes suisses, aux États-Unis, on ne parle plus de baisse des taux, on parle de hausse des taux. La probabilité d'une hausse en septembre était de 52%, elle est en train de tomber à 33, voire un peu en dessous, mais attention, elle a raison, parce qu'elle est terrible. Si le marché ne croit plus à la hausse, c'est pas parce que l'inflation est vaincue, c'est parce que les chiffres économiques sont mauvais. Vente de détail, emploi américain, autrement dit, la bonne nouvelle, c'est que la Fed ne montera pas les taux. Et la raison de cette bonne nouvelle, c'est que l'économie va trop mal. C'est le genre de bonne nouvelle dont on se passerait volontiers, quand même, quelque part, au fond. Et demain, il y aura les minutes du FOMC meeting et à la fin du mois, le petit Kevin va chausser son plus beau chapeau de cow-boy pour faire son numéro à Jackson Hole, défendre sa crédibilité anti-inflation avec un CPI à 3,4%, un 30 ans à 5,31 et un baril qui remonte. Là, je voudrais pas être à sa place, mais par contre, on va se marrer pour regarder le discours à la télé. Attention, maintenant, on change d'ambiance, on parle des trucs qui montent. L'indice des semi-conducteurs vient officiellement de sortir de son marché baissier. Il y aura passé 21 jours. 21 jours, on a eu un crash, une capitulation, des articles sur la fin de la bulle IA, des gens qui ont ressorti des graphiques de l'an 2000, et 3 semaines plus tard, tout le monde a oublié. C'est plus rapide qu'une grippe et un peu plus long qu'une gastro. Et le moteur de tout ça, c'est la mémoire. Encore elle, SanDisk qui a bondi de quasiment 9% hier, plus forte hausse du S&P 500, Micron a fini à 1 011 $ l'action. Et le déclencheur, c'est Howard Lutnick qui expliquait que l'administration Trump ne voit pas d'un très bon œil qu'Apple ait acheté ses puces mémoire chez les Chinois. Et pourquoi Apple veut acheter chinois? Parce qu'il y a pénurie mondiale et que les prix explosent. Apple a d'ailleurs prévenu en juin qu'elle refilerait la facture finale aux clients. Très concrètement, votre prochain iPhone sera plus cher. Et pas à cause d'Apple, à cause de l'intelligence artificielle qui a besoin de beaucoup, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de mémoire. Pensez-y peut-être la prochaine fois que vous demanderez à ChatGPT la recette de la raclette. Résultat, si vous vendez de la mémoire aujourd'hui, vous avez exactement le pouvoir d'un dealer de crack sur un junkie qui a plus eu sa dose depuis 3 jours. Et personne dans la salle n'a levé la main pour demander ce qui se passe quand les 720 milliards d'usines que la Corée bétonne en ce moment sortiront de terre en même temps. Mais bon, en attendant, c'est la fête au village sur la mémoire. Et maintenant, alors le passage que je préfère. Nvidia va fournir jusqu'à 105 milliards de dollars de financement pour un data center d'OpenAI en Ohio. Donc si j'ai bien tout compris, Nvidia vend des puces, OpenAI achète des puces, OpenAI n'a pas d'argent pour acheter des puces, donc Nvidia prête à OpenAI l'argent pour qu'OpenAI achète les puces de Nvidia. Vous avez bien suivi ? Le vendeur prête au client de quoi payer le vendeur et ça s'inscrit dans le chiffre d'affaires du vendeur, ce qui fait monter l'action du vendeur, ce qui lui permet de prêter encore plus d'argent. On ne vend plus des processeurs, on vend du crédit avec des processeurs offerts en cadeau. Alors oui, on va me dire que les revenus arrivent, et c'est vrai, Anthropic a multiplié son chiffre d'affaires trimestriel par 14 en un an, à plus de 11,5 milliards de dollars. Ce ne sont plus des maquettes, ce sont des sociétés qui encaissent vraiment du pognon. Le problème n'a jamais été de savoir s'il y a génère ou générerait du revenu. Le problème, c'est que le revenu croît en milliards, pendant que le financement, lui, il croît en centaines de milliards. Et cet écart-là, à un moment donné, va bien falloir le refermer. Et puis alors, l'annonce du jour, puisqu'on parle d'industrialisation de la spéculation, le CME va coter à partir du 5 octobre des contrats à terme sur le prix de location des GPU. La puissance de calcul rejoint donc le pétrole, le blé et le troupeau vivant au rayon des matières premières. Ce qui est l'aveu le plus honnête qu'on ait entendu depuis 2 ans, une puce Nvidia n'est plus une innovation technologique, c'est une commodité qu'on stocke, qu'on loue et qu'on hedge, juste au cas où. Mais le plus intéressant de tout ça, c'est pas le contrat, c'est ce qu'il va révéler. Jusqu'ici, 2 clients pouvaient payer des prix radicalement différents pour la même capacité sans que personne ne le sache. Avec un prix public quotidien, on va enfin pouvoir calculer la rentabilité réelle de ceux qui louent du calcul. Et ces mêmes maisons viennent d'allonger les durées d'amortissement de leur matériel pour faire passer la pilule de leurs investissements. Un expert sur le sujet a résumé ça d'une formule magique qui devrait pas plaire à certains CFO. Il a dit, je cite, « La transparence mettra probablement en évidence les faiblesses du modèle économique des hyperscalers. » On se réjouit de voir les hyperscalers à poil, ça va mettre du piquant dans les marchés. Et pendant qu'on regarde le baril et qu'on écoute les conneries de Donald, il y a un truc que personne ne regarde, ou pas encore. Le golfe Persique, c'est pas seulement du pétrole. Le golfe persique, c'est aussi de l'engrais. Plus de 36% de l'urée qui s'échange dans le monde vient de là-bas. Et depuis le début de la guerre, la production ralentit et les exportations sont coincées dans le détroit avec le reste. Alors on va faire très simple. Sans engrais, les trucs poussent moins bien. Et l'azote, c'est vital pour trois produits parfaitement anecdotiques que personne ne consomme jamais. Le maïs, le blé et le riz. À eux trois, plus de la moitié de la demande mondiale d'engrais azoté. Et l'engrais, c'est environ 20% du coût de production d'un champ de maïs. Mais le vrai problème, c'est pas le prix, c'est le timing. Parce que l'engrais, il faut qu'il soit là au moment des semis, pas trois mois après. Et si le bateau arrive en retard avec un petit mot d'excuse en disant « Oh, désolé, on était bloqué à Hormuz », ça ne sert plus à rien. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et remettre de l'engrais sur un champ que vous avez déjà planté au printemps. Et contrairement au pétrole, il n'existe aucune réserve stratégique mondiale d'engrais. Il n'y a pas une grosse citerne quelque part dans laquelle on va taper en attendant que ça se calme. Ça n'existe pas. Donc l'agriculteur a trois options. Payer beaucoup plus cher, mettre moins d'engrais et produire moins ou changer de culture. Deux fois sur trois, ça finit exactement de la même manière. Moins de bouffe. Et attendez, parce que c'est pas tout, il y a une deuxième tuile. Elle s'appelle El Niño. Les prévisions climatiques donnent une probabilité croissante d'un épisode d'El Niño avec des scénarios qui parlent d'un truc hyper puissant. Et historiquement, pendant El Niño, la production agricole des régions tropicales baisse de 3,5% en moyenne. Et devinez quoi ? Les pays les plus exposés à El Niño sont exactement les mêmes que ceux qui importent massivement leurs engrais du Golfe Persique, l'Inde et le Brésil. Donc vous prenez Hormuz bloqué, la pénurie d'engrais, le gaz naturel qui coûte cher, les agriculteurs qui vous rationnent et El Niño par-dessus, et vous secouez tout ça bien fort et vous obtenez potentiellement une magnifique poussée d'inflation alimentaire en 2027. Et le détail vraiment emmerdant dans tout ça, le voilà à l'instant. Parce que si la guerre s'arrêtait demain matin et que tout le monde décidait de devenir pote, le problème ne disparaîtrait pas. Les infrastructures gazières endommagées, c'est 3 à 5 ans de réparation. Le retour à pleine capacité de certaines usines d'engrais, 1 à 4 ans. Autrement dit, le pétrole peut revenir relativement vite sur le marché, mais une récolte ratée beaucoup moins. Et c'est ça le point vraiment intéressant. Aujourd'hui, tout le monde regarde la guerre en Iran comme un choc énergétique. Mais un choc énergétique, ça peut se transformer en choc agricole. Un choc agricole, ça devient un choc alimentaire. Et un choc alimentaire, ça revient exactement là où personne ne veut le revoir ou le voir dans les chiffres de l'inflation. Donc pendant que Wall Street prépare déjà l'enterrement de l'inflation et compte les prochaines baisses de taux, il serait peut-être malin de jeter un œil du côté du maïs, du blé et du riz. Parce que la prochaine vague d'inflation ne viendra peut-être pas d'un pipeline ou d'un tanker. Elle est peut-être déjà en train de pousser dans un champ. Mais je vous promets, on en reparlera. On récapitule donc, le président américain menace de bombarder ses alliés, le pétrole remonte et tout le monde trouve ça normal, le marché obligataire mondial craque, Amérique, Japon, France, Allemagne, tout le monde en même temps, les intérêts de la dette américaine représentent la capitalisation boursière du SMI, et pendant ce temps, Wall Street est à un cheveu de ses records absolus parce qu'un fabricant de puces prête de l'argent à son propre client. Voilà, c'était le Morning Bull Live du 18 août. Si ça vous a plu, on like, on s'abonne et on partage si vous voulez que je revienne demain. Et surtout, on active la cloche parce que sinon YouTube ne vous montrera jamais cette vidéo. Maintenant, surveillez bien le 30 ans plutôt que le S&P parce qu'un jour, il y aura une limite qu'on pourra plus franchir. Et on se retrouve demain pour de nouvelles menaces de bombardement sur des pays alliés et les minutes d'une Fed qui hésite entre monter les taux et se prendre pour les trois petits singes. On n'entend rien, on ne voit rien et surtout... on la ferme. Allez, bye bye, bonne journée.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.